Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h. Nous parlons de l'actualité scientifique. Juste après VibraSOS hein, qui vous accompagne aussi tous les samedis à 11h, cette fois avec Enrique. Enrique que vous retrouvez demain pour cette émission spéciale. Demain dimanche, une émission en direct du marché de Noël de Compiègne, donc à 13h30 il me semble. Donc demain, voilà, suivez en direct Enrique pour une superbe émission, plein de dynamisme, comme il sait le faire à chaque fois. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre, c'est la dernière émission de cette année 2023 sur l'antenne de Graphite, dernière émission de Biotine, mais nous allons quand même toujours continuer à voir l'éphéméride de ce 16 décembre. 16 décembre, il y en a cette année, bien sûr, il n'y en a pas eu en 1582. Il n'y a pas eu en France de 16 décembre du fait de l'adoption du calendrier grégorien. Et donc, entre le 9 et le 20 décembre, il n'y a rien eu. On est passé du 9 au 20 décembre directement. Donc, il n'y avait pas de 16 décembre en 1582. Bon, ils sont tous remis, hein, apparemment. Mais ils ont vieilli d'un seul coup d'une dizaine de jours. Paf, comme ça, en une seule nuit. C'est assez original. Mais voilà, c'était l'adoption du calendrier grégorien. En 2004, le 16 décembre, la sonde Voyager 1 quitte l'héliosphère. Elle est la première création humaine à naviguer au-delà de l'une des principales frontières du système solaire. Et en 2004, c'était l'ouverture à la circulation du viaduc de Millau. C'était il y a 19 ans. En 2020, la sonde spatiale chinoise Chang'e 5 largue sur Terre une capsule avec des échantillons de sol lunaire, les premiers obtenus depuis 1976. Naissance le 16 décembre 1909 de Hans Suess, spécialiste autrichien puis américain de chimie physique et de physique nucléaire durant la Seconde Guerre mondiale. Il a travaillé sur les potentialités énergétiques de l'atome dans le cadre du projet Uranium lancé par les autorités nazies en 1939. Il a supervisé la production de l'eau lourde en Norvège. Il a émigré aux États-Unis en 1950. Il est mort en 1993. Hans Suess. Décès le 16 décembre 1945 de l'industriel emblématique italien Giovanni Agnelli, pionnier de l'automobile, président et fondateur de l'empire industriel Fiat. Il était également un homme politique italien et est donc décédé un 16 décembre 1945 à Turin. Pour cette dernière émission de Biotine de cette année 2003, on va s'arrêter sur plein de petites brèves que l'on peut trouver dans des revues de vulgarisation scientifique. Les plus connues, c'est Science et Vie, c'est Science et Avenir. Il y a des dossiers assez intéressants qui permettent d'avoir une explication un petit peu plus approfondie sur certains domaines scientifiques et technologiques, bien évidemment. Et puis, il y a aussi des petites brèves qui sont assez intéressantes parce qu'elles concernent plein de sujets. Et c'est un petit peu ce que je vous propose dans cette émission. Donc, comme ça, quand vous allez avoir bientôt des réveillons, des choses comme ça, et qu'à un moment, il faut discuter de choses et d'autres, eh bien, vous allez pouvoir retrouver cette rubrique « Savoir étaler sa science » avec toutes ces petites brèves que l'on peut retrouver assez bien parce que c'est assez sympa et on touche à plein de choses dans ces revues de vulgarisation. Alors, j'ai tellement de choses que je ne sais même pas par laquelle commencer. Par exemple, il y a des chercheurs japonais qui ont construit des maisons avec un béton, c'est quand même plus simple, pour des maisons. Et dans ces bétons, ils ont intégré presque 8% de couches culottes usagées, ce qui remplace en partie le sable. Donc, c'est assez intéressant. Ça, c'est un sujet de conversation pour un réveillon, on ne sait jamais de quoi parler. Et bien du coup, on peut parler de ça. On va dire, ben, tu sais que au Japon, il y a des chercheurs qui ont construit des maisons avec du béton à l'intérieur. Il y avait presque 8% de couches culottes usagées. C'est un principe du recyclage assez original. Alors, est-ce que ces performances du béton sont les mêmes par rapport à un béton, on va dire, traditionnel? Je n'en sais rien, l'article ne le précise pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Une information, c'est que Saturne, elle est condamnée à perdre ses anneaux. Il n'aurait qu'entre 100 et 400 millions d'années. et il devrait après avoir disparu dans 100 millions d'années. J'ai recommencé parce que ma phrase n'avait pas clair. Non, parce que des fois, ces brèves, elles sont tellement brèves qu'on n'avait pas le temps de bien comprendre ce qu'on vient de lire. Saturne est condamné à perdre ses anneaux. Il devrait avoir disparu dans 100 millions d'années. Ça va faire bizarre de voir Saturne sans ses anneaux, par exemple. Bon, on ne le verra pas, parce que dans 100 millions d'années, à mon avis, je pense qu'on sera poussière de chez poussière. Mais bon, nous ne pourrons plus voir Saturne avec ses anneaux. Et en parallèle, le Royaume-Uni a commencé les travaux d'une future base de lancement de fusées dans le nord de l'Écosse. Fer de lance des ambitions spatiales britanniques. Les Britanniques se lancent dans la conquête spatiale et du coup, ils ont choisi le nord de l'Écosse pour construire leur future base de lancement. C'est assez intéressant également et ça permet de se dire que les Britanniques, maintenant, vont essayer d'être autonomes. Bravo, parce que ça va demander quand même pas mal d'argent et bon, apparemment, ils ont cette ambition-là. D'un point de vue scientifique, c'est toujours intéressant. Le témoignage de ce conducteur de Tesla qui figure parmi des milliers d'autres dans une enquête du journal allemand Handelsblatt. Il a récupéré 100 gigaoctets de documents confidentiels du constructeur automobile américain dans lesquels les clients remontent des problèmes d'accélération ou d'arrêt d'urgence inexpliqués des voitures, allant parfois jusqu'à des accidents. « Mon autopilote a failli me tuer ». Ce sont ces témoignages que l'on retrouve de conducteurs de Tesla. Alors c'est assez intéressant, enfin quand je dis c'est assez intéressant, c'est le traitement médiatique de ce genre d'informations, parce que là c'est une brève dans Science et Avenir, mais on n'a pas nécessairement eu une information assez répandue dans ce genre de problème qui pourrait survenir sur les Tesla. Donc, à voir, pourquoi pas. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une analyse scientifique, technologique, de comprendre les raisons de cela, si c'est avéré, bien évidemment. Mais c'est aussi toujours intéressant, dans ce genre de situation, d'analyser l'aspect médiatique de la chose, parce qu'effectivement, si on s'attaque à Tesla par un biais qui est plutôt critique et inquiétant, ça donne une image pas nécessairement valorisante de cette entreprise. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir vu ailleurs et de façon un petit peu plus approfondie un dossier sur Tesla. Mais affaire à suivre, hein, peut-être que je suis passé à côté, hein, je peux le concevoir totalement, mais je peux comprendre aussi qu'on ait souhaité ne pas nécessairement diffuser ce genre d'informations, d'autant que là, on est sur quelque part un piratage de documents confidentiels. Donc, bon, ceci explique peut-être cela, mais en tout cas, ça pourrait permettre de mettre en place un débat et essayer de réfléchir sur ce genre de sujet. Autre chose, concernant la cryptographie conçue par des artistes et des scientifiques, il y a un message crypté qui a été transmis à la Terre par la sonde européenne TGO qui orbite autour de Mars. Ce message a été intercepté par des télescopes terrestres et il est désormais mis à disposition des internautes. L'objectif, c'est d'entraîner la communauté mondiale à réceptionner, à décoder et à interpréter un éventuel message extraterrestre. C'est ce qu'expliquent les organisateurs du projet. Alors, le signal, qui serait apparemment complexe et non mathématique, n'aurait toujours pas été déchiffré apparemment. Alors, j'ai pas eu les dernières informations. Peut-être qu'on a réussi à trouver ce que ça voulait dire. Mais l'intérêt, c'est pas nécessairement de déchiffrer ce message qui est finalement un message qui a été conçu par des humains, mais de se dire qu'est-ce que l'on fait si on reçoit un message extraterrestre qu'on n'arrive pas à comprendre. Déjà, comprendre qu'il s'agit d'un message extraterrestre est déjà une première chose. Et donc ensuite, être en mesure de pouvoir le réceptionner, donc, et ensuite de pouvoir le décoder et l'interpréter, bien sûr, ça peut être assez intéressant. Et donc, du coup, peut-être que vous, voilà, vous pouvez vous poser la question de savoir, mais comment on s'y prendrait, quelque part si on arrive à percevoir qu'il y a un message, comment comprendre qu'il s'agit d'un message et non pas d'une interférence quelconque? Et c'est quoi ce message? C'est ça qui est aussi intéressant et assez bluffant. Voilà, il y a plein de petites brèves comme ça qu'on va écouter, enfin, qu'on va essayer de décrypter ensemble. Et puis, en même temps, il y a aussi un peu de musique. C'est ça, Biotine, c'est de la science, c'est de la technologie et c'est de la musique. Flowers from my Black Summer, c'était Gates of Light sur l'antenne de Graphite. Je vous parlais donc de ces messages qu'il fallait décrypter. En 1983, il y a eu deux astronomes nippons qui étaient peut-être un petit peu sous et qui ont envoyé des messages radio vers l'étoile Altaïr. Parmi ces messages, y a-t-il quelqu'un ? Il y avait également la formule de l'éthanol et puis il y avait le mot japonais que l'on dit Kampai. Alors, je prononce peut-être très mal, mais ça veut dire santé quelque part. Ils avaient un petit peu un coup dans le nez, donc fatalement ils ont plutôt été très orientés dans les messages qu'ils ont souhaité transmettre à cette étoile. Et il y a un radiotélescope qui vient d'être déployé pour essayer de capter l'éventuelle réponse extraterrestre à tout ça. S'il y a des extraterrestres et qu'ils ont capté ces messages, ils ont dû se dire « mais qu'est-ce que c'est terrien ?» Ils ont l'air d'avoir un petit peu un coup dans le nez et ont peut-être un petit peu abusé de l'alcool. Ça donne une drôle de réputation. Alors pour l'instant, évidemment, on n'a pas d'informations, on n'a pas eu de retour, mais ça serait peut-être un petit peu plus intéressant d'essayer de trouver... je sais pas, des messages un petit peu plus consistants, bien évidemment. Il y a une équipe française qui a voulu travailler dans le domaine de l'éthologie, donc au niveau du comportement animal, et ils ont passé différents enregistrements de bébés chimpanzés, bonobos, même des bébés humains, et ils ont passé ces enregistrements à des crocodiles, et ils ont remarqué que plus l'enregistrement diffusait le bruit d'un bébé qui exprimait de la détresse, plus les reptiles tentaient de les trouver. Et on se dit, oh ben, vont sûrement les aider. Non, évidemment, ils avaient compris que ce bébé était en détresse, donc il était vulnérable. Et c'était plutôt pour les manger. C'est en tout cas, c'est ce qu'estiment les chercheurs. Alors, ça reste bien sûr une supposition, parce que vous pensez bien qu'on ne va jamais faire l'expérience pour de vrai. Hein, on va rester sur des enregistrements. Mais voilà, ils ont perçu, en fait, dans ces enregistrements, qu'il y avait une détresse, donc une vulnérabilité. Et ces crocodiles, on se sont dit, tiens, là, le petit casse-croûte qui arrive. Ça, c'est des brefs que l'on a dans Science et Vie, par exemple. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir le parler, le langage de la baleine. Alors, c'est pas facile à faire. Hein. C'est un grondement de ventre suivi d'un bruit de goutte d'eau. Alors, je ne peux pas vous le faire, ça fait loup à peu près comme ça, mais d'une façon beaucoup plus élaborée. Mais en baleine, cela signifierait « je suis là ». C'est-à-dire « je suis là, j'existe, je suis… vous me voyez, je suis là », c'est comme une marque de présence. Et une chercheuse qui s'appelle Michèle Fournet, elle a passé des enregistrements de ce fameux loop à d'autres baleines. Donc les autres baleines n'ont écouté que ce bruit et elles ont également répondu par le même bruit, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas souciées de voir physiquement la baleine, elles ont juste écouté le bruit qui émettait cette baleine pour émettre le même bruit comme quelque part un signe de reconnaissance et du coup elles ont pu capter ce nouveau bruit. C'est assez, je sais pas, c'est assez étonnant bien évidemment. On a fait des études sur la pollution et notamment c'est une étude française qui montre que les 2 millions de tonnes de microfibres issues de nos lave-linges affectent la santé des organismes marins. C'est le constat d'une étude qui a mis en contact des huîtres avec des fibres naturelles et synthétiques. Et les scientifiques ont constaté que les fibres naturelles, le coton, la laine, génèrent une inflammation des parois digestives de ces mollusques et affectent leur système immunitaire davantage que les fibres synthétiques. Nous dit-on. Donc les microfibres naturelles irritent plus les huîtres que si on aurait mis du polyester. C'est cette étude française qui a été révélée également. Il y a des images par satellite à haute résolution associées à une intelligence artificielle qui ont permis de cartographier chaque arbre du continent africain. Que ce soit des arbres isolés ou que ce soit des arbres qui fassent partie d'une forêt, la technique a permis de trouver que 30% de la couverture arborée se situe en dehors des zones forestières. Les terres cultivées comptant plus de 400 millions d'arbres, c'est une étude de l'université de Copenhague qui permet d'avoir un recensement des arbres d'Afrique qui a donc pu être réalisé, ce recensement, par intelligence artificielle. Selon de nouvelles projections, la glace de mer qui est en Arctique aura disparu en été d'ici à 2030, soit 20 ans plus tôt que les projections du GIEC. C'est une annonce, là encore, qui illustre un petit peu le réchauffement climatique que l'on évoque très très régulièrement dans cette émission, bien sûr. Il y a une étude internationale qui révèle que les stations de mesure de la qualité de l'air récoltent involontairement de nombreux fragments d'ADN des espèces animales et végétales environnantes, si bien que du coup, on est là aussi sur une autre pollution et aussi, un dysfonctionnement de ces systèmes de mesure. Et puis enfin, et là c'est assez étonnant, il y a des examens d'IRM cérébral, c'est une technologie d'imagerie cérébrale, qui a été réalisée sur des pigeons. On a fait ça pendant qu'ils dormaient. On s'est rendu compte, alors c'est une interprétation, mais on s'est rendu compte quand ils dorment, ces pigeons rêvent qu'ils volent. Je trouve ça formidable. Alors déjà, je ne savais pas qu'un pigeon pouvait rêver. Et si un pigeon rêve, il rêve qu'il vole. Je sais pas. Mais il y a des choses comme ça que l'on découvre. Mais c'est ça, ces petites brèves, c'est toujours intéressant. Là, je vous donne plein de choses pour vos réveillons. Là, les réveillons vont durer des heures et des heures, parce que le temps de pouvoir aborder tous ces sujets, parce que chacun aura évidemment un mot à dire sur des pigeons qui rêvent qu'ils volent. Effectivement, moi, personnellement, j'ai jamais rêvé que je volais, mais parce que je ne sais pas quelle sensation ça peut être. Mais j'ai rêvé que je marchais. Alors un pigeon, effectivement, peut comprendre qu'il rêve qu'il vole. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'en sais rien, mais vous verrez bien. Il y a d'autres études qui ont été menées concernant les turbulences en ciel clair qui sont rencontrées par les avions de ligne. Et on s'est rendu compte qu'elles sont plus fréquentes qu'il y a 40 ans. C'est assez dangereux parce que c'est imprévisible quand on est dans un ciel clair. C'est le constat publié dans la revue Geophysical Research Letters. C'est une équipe de l'université de Reading au Royaume-Uni qui a donc mené ce constat. L'air plus chaud dû aux émissions de dioxyde de carbone tend à accroître le cisaillement du vent dans les courants d'altitude et donc ça augmente les secousses à bord. Les mesures effectuées sur un point typique au-dessus de l'océan Atlantique Nord montrent que la durée annuelle des fortes turbulences est passée de 17 heures à plus de 27 heures en une quarantaine d'années. Les turbulences modérées sont passées, elles, de 70 à 96 heures par an. Et si les États-Unis et l'Atlantique Nord ont connu les hausses les plus importantes, eh bien, d'autres itinéraires de vol très fréquentés au-dessus de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Atlantique Sud ont connu une augmentation significative des turbulences. Et voilà. Et là, c'est encore une autre illustration du réchauffement de notre atmosphère dû aux émissions de dioxyde de carbone. Et là, on est sur une, comment dire, la conséquence qui est le cisaillement du vent que l'on constate par des turbulences en vol. Mais là encore, on n'avait pas nécessairement eu cette illustration. Enfin, c'est encore voilà, une preuve supplémentaire et un cas concret qui révèle la forte expansion, je vais y arriver, de ce réchauffement climatique, parce que du coup, on constate depuis une quarantaine d'années une augmentation de ces turbulences, et quelque part, il y a une corrélation avec ce qui se passe dans le réchauffement climatique, bien évidemment. Allez, on continue à feuilleter l'actualité scientifique, et on continue à écouter un peu de musique. C'est ça, la dernière émission de l'année sur Biotine. Whatever Feels Together, c'était Skull Crusher sur l'antenne de Graphite. Alors là, ça, j'ai l'article qui va faire parler dans vos réveillons. Le titre, il est très simple. Dracula pleurait des larmes de sang. Ah, alors là, vous posez ça sur la table et à mon avis, ça vous fait à la fois l'entrée, le plat et le dessert. Dracula pleurait des larmes de sang, c'est la conclusion d'une équipe de chercheurs italiens. Une équipe qui a analysé chimiquement 3 documents écrits et signés par le comte Vlad III Dracula. Ce prince de Valachie, en Roumanie actuelle, régnait au XVe siècle et il aurait inspiré le monstrueux vampire du roman de Bram Stoker. Notre but était d'explorer les conditions environnementales de la Valachie dans la seconde moitié du XVe siècle à partir de ces lettres rangées dans les archives gouvernementales de Sibiu en Roumanie. C'est ce que raconte Vincenzo Cunzolo, qui est le professeur de chimie organique à l'université de Catalane, donc en Italie, et il est membre de l'équipe à l'origine de la découverte. Il explique « Nous avons appliqué de l'acétate d'éthylène vinyle sur les documents pour ramasser les molécules les plus petites que nous avons analysées par spectrométrie de masse. » Et donc, surprise, sur l'une de ces lettres, écrite en 1475, des protéines de la rétine et des larmes caractéristiques de l'hémocralie ont été retrouvées. Conclusion, le comte devait donc pleurer des larmes de sang. Et ce n'est pas tout. Ce comte souffrait probablement aussi d'inflammation des voies respiratoires et de la peau. Alors, bien sûr, il y a eu d'autres personnes qui ont touché ces documents, mais les protéines dont nous parlons sont les plus anciennes. Elles sont bien liées à ce comte qui a écrit et signé ces lettres. De quoi, bien sûr, accroître encore la sinistre réputation du prince roumain Vlad III, le comte de Dracula. Bien sûr, il pleurait des larmes de sang. C'est dans Science et Vie du mois de novembre qu'on peut trouver ça. C'est vrai, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup d'articles sur ce sujet-là, mais je trouvais ça assez intéressant de l'évoquer dans le cadre de cette émission de fin d'année, bien évidemment. Autre chose, en 1976, la NASA a envoyé sur Mars 2 sondes Viking chargées d'analyser des roches pour y détecter d'éventuelles formes de vie. Faute de preuves tangibles, l'agence a conclu n'en avoir trouvé aucune. Sauf que, pour l'astrobiologiste Dirk Schulz-Makusch de l'Université technique de Berlin, les preuves étaient bien là, mais elles auraient été involontairement détruites. Il explique, à l'époque, on pensait qu'ajouter de l'eau dans les échantillons de roches inciterait des formes bactériennes à se réhydrater. Or, nous savons désormais que des bactéries adaptées à l'extrême sécheresse ne peuvent en absorber autant. Et donc, les bactéries des roches du désert sec d'Atacama au Chili survivent, par exemple, en captant le peu d'eau de l'atmosphère grâce au sel des roches. Mais une pluie abondante les tuerait, c'est ce qui est arrivé en 2015, lorsque des inondations exceptionnelles ont décimé 85% de ces bactéries qui résistent aux conditions extrêmes. Et donc, de la même manière, les échantillons sur Mars ont sans doute fini noyés, c'est ce qu'avance Dirk Schulz-Makusch. En outre, lors de la mission Viking, il y a des prélèvements qui ont été chauffés pour analyser les gaz, ce qui révélait un fort taux de dioxyde de carbone. Peut-être un autre indice de bactéries martiennes, c'est ce que pointe le chercheur. Leur métabolisme pourrait fonctionner avec du peroxyde d'hydrogène, un composé ayant la capacité de capter l'eau atmosphérique. Or, en chauffant, celui-ci se décompose en donnant énormément de CO2, ce qui expliquerait les taux enregistrés. Donc, de quoi tirer des leçons de ces erreurs et lancer de nouvelles missions sur Mars avec des méthodes de détection adaptées, c'est ce qu'estime Dirk Schulz-Makusch. Mais l'article s'intitule « L'humain aurait involontairement tué de la vie sur Mars ». On n'en est pas encore là, on n'a absolument aucune preuve, ce sont des suppositions, mais bon, ça peut être intéressant éventuellement d'en savoir un petit peu plus. On avait parlé dans l'émission de la semaine dernière, je crois, de cette greffe d'un œil complet. Là, on est sur des lentilles oculaires Et avec cette première qui a été annoncée, alors on connaissait les lunettes connectées, hein, évidemment. Il est impossible d'en faire autant avec des lentilles, parce qu'il faut aussi une batterie qui doit être minuscule et absolument sans danger pour les yeux. Eh bien, il y a des chercheurs de l'université technologique de Nanyang à Singapour qui viennent de développer la première batterie pour lentilles oculaires. Et c'est une véritable innovation. C'est une bactérie flexible qui ne mesure qu'à 0,5 mm d'épaisseur. Donc c'est quand même assez fin. Et elle est composée de matériaux qui sont compatibles avec l'homme, enfin en tout cas avec l'œil, en tout cas, ce qu'on appelle biocompatible. Elle ne contient donc aucune pièce métallique, pas de métaux lourds. Surtout, elle se recharge lorsqu'elle est immergée dans une solution saline, comme par exemple les larmes. Donc du coup, quelque part, ça permet de se recharger automatiquement. C'était testé en laboratoire et cette batterie a délivré un courant qui est assez intéressant. Alors, une batterie qui n'est pas encore capable de fournir suffisamment d'énergie pour alimenter l'électronique d'une lentille connectée, mais nous travaillons, et explique donc cette équipe de recherche, sur des matériaux plus performants pour ces électrodes, tout en continuant de garantir la sécurité de l'œil, bien sûr. Il y a une image qui montre cette batterie, je vais y arriver. En fait, c'est quelque part une lentille qui est recouverte d'un matériau spécifique et donc qui peut être supporté par l'œil et qui permet donc de la production de ce courant. C'est totalement bluffant, je trouve. C'est ça qui est intéressant. C'est ce côté totalement innovant, bien évidemment, de ces bactéries. Alors, j'en veux avec ces bactéries, de ces batteries. Donc voilà, vous pouvez donc, dans le cadre de votre réveillon, dire que Dracula pleurait des larmes de sang, dire que l'humain, quand il a été sur Mars, il a peut-être involontairement tué de la vie sur Mars, et que bientôt vous aurez des lentilles connectées avec une batterie qui sera directement dans la lentille. Et comme ça, c'est une technologie totalement superbe qui est mise en place, bien évidemment. L'objet le plus rapide jamais conçu par l'homme, c'est une sonde solaire, la sonde Parker. Elle a battu son record de vitesse. On est à plus de 635 000 km/h. Elle a gagné de la vitesse grâce à l'influence gravitationnelle de Vénus. Et elle s'approche à seulement 7 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Il y a un autre survol qui est envisagé l'année prochaine avec une distance plus courte, une distance de 6 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Et donc là, ça sera encore à une vitesse beaucoup plus élevée. C'est fascinant, mais quand même plus de 630 000 km/h pour cet objet le plus rapide qui a été conçu par l'homme. C'est assez intéressant. Donc c'est une sonde solaire. Enfin, pour laisser le sort décider, on utilise parfois le pile ou face. Donc par exemple, là, vous allez vous dire au niveau du réveillon, qui c'est qui va débarrasser la table ? Ben, écoute, on va tirer à pile ou face parce qu'on se dit que c'est l'une des meilleures options pour décider, pour laisser le sort justement décider. C'est simple, c'est juste. Du moins mathématiquement, parce qu'en pratique, on s'est rendu compte qu'un côté de la pièce a l'avantage, c'est le côté qui, juste avant le lancer, est sur le dessus. C'est ce que des chercheurs néerlandais viennent de mettre en évidence. Alors, ils ont quand même passé du temps dans cette étude très importante et je pense qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête un petit peu sur le protocole expérimental. C'est important pour toute découverte scientifique. Là, ils ont répertorié 350 000 lancers. Ils ont quand même lancé 350 000 fois une pièce de monnaie, en fait. C'est ça le principe. Il y a 48 personnes qui ont participé à cette étude, dans 46 pays différents, donc avec des pièces différentes. C'est ça qui est intéressant. À chaque fois, les participants devaient noter la face qui pointe vers le haut avant le lancer, et ils devaient noter les résultats. Et dans 50,8% des cas, la pièce atterrit en montrant le même côté. Pourquoi ? Eh bien, une pièce de monnaie jetée passe peut-être plus de temps en l'air avec la face initiale vers le haut, ce qui lui donne l'avantage à l'atterrissage. Faut-il pour autant abandonné le tirage au sort. Parce que du coup, on se rend compte qu'on n'est pas dans du 50%, du 50-50, on est du 50,8%. Il reste possible de dissimuler la pièce le temps que chacun choisisse entre pile ou face. De la sorte, personne ne peut être avantagé. Merci du conseil, cher František Bartos, qui est l'auteur de cette étude et qui a donc répertorié plus de 350 000 lancers de pièces de monnaie pour savoir si, quand elle atterrit, on est sur du pile ou du face. C'est quand même assez formidable. Mais ça, voilà, vous allez pouvoir discuter de ça pendant le réveillon. Ça, c'est grâce à Biotine. Je suis fier de pouvoir contribuer au bien-être de votre réveillon. On continue aussi à écouter un peu de musique parce que je suis sûr que pendant le réveillon, vous aurez de la musique. Another day gone by, ending with the dive of light into the sea. Free bodies adore the beating shores of town, where salt meets the land. Crystal Town, c'était Raoul Vignal sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Pendant toute l'année, nous feuilletons la revue de presse de l'actualité scientifique avec des informations plutôt sérieuses. Pour cette dernière émission de l'année, pour éviter de faire un best-of, j'ai récupéré quelques brèves dans les revues de vulgarisation scientifique assez répandues en France, Science et Vie, Science et Avenir, également sur quelques sites internet. C'est une émission un peu spéciale, on se fait plaisir, on apprend apprend plein de choses passionnantes que vous pouvez restituer au niveau, au moment de votre réveillon. Et que vous soyez boulanger, électricien ou encore plombier, eh bien, l'Institut Polaire Français a peut-être un contrat d'un an pour vous dans une station de recherche en Antarctique. Vous pouvez postuler si vous le souhaitez. Alors, ça dure qu'un an. Mais ça peut être intéressant. Voilà. Donc, l'Institut Polaire Français propose donc dans une station de recherche en Antarctique quelques postes pour un CDD d'un an. Alors, bon, faut aimer quand même aller en Antarctique. Hein. Il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de manchots également. Mais ça peut être quand même une aventure assez intéressante, bien sûr. Pendant ce temps-là, il y a des chercheurs qui ont réussi à alimenter brièvement des ampoules LED grâce à une technologie totalement inédite. Ils ont écrasé à main nue des courges. Et donc... Non, mais on imagine bien le protocole expérimental, là. Grâce à l'énergie qui est créée par la déformation du légume, eh bien, ils ont pu émettre 8 nanoampères. Alors, c'est pas vraiment pratique, mais bon, c'est une façon comme une autre de produire de l'électricité. Donc, si vous avez un problème de batterie, si vous voulez recharger votre téléphone portable... Emmenez 3 kilos de courgettes avec vous, vous les écrasez et du coup, vous allez pouvoir produire de l'électricité. Oh là là, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel monde on vit parfois, c'est assez étonnant. En septembre dernier, il y a les serveurs du centre médical pour anciens combattants du Kansas City qui ont été effacés. Ces serveurs ont été totalement effacés. Alors, on a voulu savoir ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? C'est une attaque pirate ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a trouvé le coupable. Et le coupable, c'est un chat qui a sauté tout simplement sur un clavier. Et donc, ils ont réussi à restaurer les serveurs. Mais en tout cas, voilà, comme quoi, c'est quand même assez fragile tout ça, finalement. On peut perdre pas mal de données d'un seul coup, tout bêtement à cause d'un chat qui a sauté sur un clavier. Bon, bah voilà, on n'a pas très bien compris les motivations du chat. Hein. On ne sait pas, il ne parle pas. On n'arrive pas à essayer d'avoir les raisons de son comportement. Mais voilà. 99%, c'est le taux d'échec de Geolotica. C'est un logiciel qui est utilisé par la police américaine. Un logiciel qui est censé prédire les lieux et les moments où des crimes pourraient se produire. 99% d'échec. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il y a quand même 1% de réussite. En fait, oui, il y a 1% de réussite parce qu'à force de balancer plein de trucs faux, au bout d'un moment, ça peut tomber juste. Mais en fait, c'est vraiment du pur hasard. Quelque part, là, on est sur de la statistique et c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Mais donc, voilà. On avait parlé, il y a quelques années, moi, ça me dit quelque chose, de ce logiciel qui était censé prédire les lieux et les moments où des crimes pourraient se produire. Il s'appelle Geolitica. Mais voilà, avec finalement le recul, on se rend compte que c'est pas si efficace que ça. Ça me fait penser à ce film de Spielberg, je crois que c'est Minority Report, il me semble, où ils essayent voilà, de prédire l'avenir avec l'idée de prédire des futurs crimes. Mais voilà, ils n'avaient pas Geolitica dans le film, à mon avis. Et tant mieux, parce que sinon, ça aurait été un petit peu dommage. Je crois que ça peut être une histoire un scénario assez intéressant, hein, d'avoir un logiciel qui ne produit pas du tout où ont lieu les futurs meurtres. Je ne sais pas, ça peut être une idée assez intéressante. Enfin, il y a une étude anglaise qui a été menée et qui montre que le SUV émet en moyenne plus de CO2 que les petites voitures d'il y a 10 ans. Et les 20% des Britanniques les plus riches sont 80% plus susceptibles de posséder un SUV que les autres. Et ils roulent 3 fois plus. Donc, conclusion, ce sont bien les plus gros pollueurs. Alors, on a donc dû faire une étude pour essayer d'avoir une confirmation de quelque chose qu'on avait un petit peu compris à l'avance. Enfin, il me semble. Dans Science et Vie, il y a cet article assez intéressant de Charlotte Moget sur les techniques de peinture de Léonard de Vinci. y a un héritage assez conséquent, mais ces œuvres recèlent en effet encore bien des secrets. Et récemment, des chercheurs ont enquêté sur l'élaboration chimique de ces peintures. Ils ont montré que chaque ingrédient était choisi avec beaucoup d'attention. Par exemple, il préparait assidûment son panneau avant de le peindre. En analysant un micro-échantillon de la sous-couche de la Joconde, il y a des chercheurs français et britanniques qui ont découvert des ingrédients peu communs, un mélange d'huile de plomb et de la plombonacrite. C'est le fruit d'une réaction chimique et cette recette permettait sûrement d'obtenir une peinture plus épaisse et de lui conférer de meilleures propriétés de séchage. C'est ce qu'estime Myriam Evenot, qui est chimiste au CNRS et qui est l'une des responsables de cette étude. La deuxième information, c'est que Léonard de Vinci travaillait précisément les blancs. Il y a eu l'étude d'un autre fragment d'une œuvre de Léonard de Vinci qui s'appelle « La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne ». Et cette étude a révélé l'attention portée à l'élaboration de la couleur blanche. La même équipe de chercheurs a en effet découvert que Léonard de Vinci utilisait deux couches différentes de blanc de plomb, probablement un choix esthétique. L'hypothèse est qu'il utilisait plusieurs types de blanc de plomb pour leurs différentes qualités. Par exemple, la taille des cristallites apporte des propriétés optiques différentes, ce que pouvait sûrement rechercher Léonard de Vinci. Enfin, troisième information, il utilisait du jaune d'œuf, tout comme Botticelli ou Rembrandt. Une équipe, cette fois de chercheurs italiens et allemands, cette équipe a voulu reproduire l'expérience en recréant le mélange. Les chercheurs se sont rendus compte que cet ingrédient avait plusieurs avantages: ralentir l'oxydation du blanc de plomb, éviter l'apparition de rides sur la peinture. Et puis d'ailleurs, dans ses premiers tableaux à Léonard de Vinci, notamment la Madone à l'œillet, eh bien il n'utilisait pas, en tout cas il n'ajoutait pas de protéines d'œuf, et il y a des plissements qui sont maintenant visibles sur ses premiers tableaux. Le peintre n'aurait utilisé cette astuce que par la suite. Voilà trois découvertes sur les techniques de peinture de Léonard de Vinci qui sont détaillées dans Science et Vie. Enfin, on a retrouvé comment ronronnent les chats. Ce petit bruit, un petit peu de moteur caractéristique, intrigue depuis longtemps les scientifiques. Comment un chat, qui est un petit animal pesant à peine quelques kilos, peut-il produire des sons à des fréquences incroyablement basses, de 20 à 30 Hertz, bien en dessous ce dont est capable la voix humaine? C'est ce que demande Christian Herbst de l'Université de Vienne en Autriche. Normalement, en effet, plus un animal est grand et donc doté de longues cordes vocales, plus la fréquence des sons qu'il produit est basse. Et donc, pour percer le mystère, le chercheur autrichien spécialisé en acoustique a prélevé les larynx de 8 chats qui, en raison de maladies incurables, avaient dû être euthanasiés. Résultat, en y insufflant de l'air, les organes produisaient bien des ronronnements, sans même nécessité de contraction musculaire ou des inductions neuronales, alors que c'est ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Et en fait, non. Les larynx étaient dotés de particularités jamais encore décrites. Des sortes de petits coussinets sont incorporés aux cordes vocales et pourraient bien expliquer le phénomène, c'est ce qu'explique Christian Herbst. Alors reste à comprendre par quel mécanisme ces petites structures qui mesurent jusqu'à 4 mm abaissent la fréquence des sons produits par les cordes vocales des chats, et on n'en sait pas encore bien précisément ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà, on aurait peut-être une piste pour comprendre les basses fréquences de ces cordes produites par ces coussinets au niveau des cordes vocales et qui, bien sûr, expliquerait le ronronnement des chats. Donc ce que vous pouvez retenir de cette information dans le réveillon quand il y aura des enfants, c'est qu'il y a eu un chercheur qui, j'ai oublié le pays, pardon, Université d'Autriche, donc un chercheur autrichien, qui a récupéré des chats qui de toute façon allaient mourir. Et donc du coup, il a pu faire une expérience directement avec ces chats pour bien comprendre le fonctionnement du ronronnement. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en 2023, on sait faire plein de choses, mais on ne sait pas encore pourquoi le chat ronronne, vous voyez. C'est ça qui est étonnant en science, et qu'on a toujours plein de découvertes dans plein de domaines. Et c'est ça aussi Biotine. Allez, on écoute la dernière, le dernier titre de cette année sur l'antenne de Biotine, et puis on se quittera tout à l'heure. Rolling up to vote, I took my Benson. England's blowing smoke and needs attention. Could use a lick of paint to change a color before they send us back across the water. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but they won't stand down no matter what you say or do. How do you learn to love if you're not taught to? You dream of freedoms on a curfew. Paying the price to live in our skin is wearing me thin. Who's got love for the taking? Who's got heart for the aching? No such thing as a kingdom when tomorrow's done for the children. They chop it up and divide. So meet me at the borderline. Of a nation, breaking up the euros at the station, visiting the bank for bread and butter. Don't want to see no doctor when we suffer. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but maybe that's a symptom. Fucking with a kingdom that never fought for you. Merci, c'était Kingdom de Joe Crooks sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h avec la rediffusion le mardi matin 10h. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, avec la possibilité de pouvoir récupérer bien sûr les podcasts. On terminera cette information avec cette question: est-ce qu'on peut manger du fromage sans traire une vache? Eh bien, la réponse est oui. On n'a plus besoin de traire les vaches pour manger du fromage. On veut créer de véritables protéines de lait ou d'œufs sans utiliser des animaux. Ce sont des start-up qui cherchent, grâce à la fermentation de précision, à reproduire la texture, le goût et l'apport nutritif de fromage ou d'omelette. Et tout cela en n'étant pas obligé de passer par le principe de l'élevage. Dans les laboratoires, par exemple, de Steady Innovation à Paris, c'est dans une salle sombre que débute la conception du produit. On insère dans un micro-organisme, c'est-à-dire une levure, un champignon, une bactérie, on va insérer des gènes de la vache et ces gènes vont être capables de produire de la caséine. C'est la principale protéine contenue dans le lait. Et donc, ces micro-organismes vont pousser ensuite dans des fioles avant d'être transférés dans des fermenteurs. On va ajouter de l'eau, du sel, de l'azote, du sucre et ils vont se multiplier. Et donc à partir d'une fiole de 30 ml, donc d'une toute petite fiole, l'entreprise peut produire 1 litre en 24 heures. Alors on va faire de la filtration, centrifuger, on va délester des micro-organismes qui étaient génétiquement modifiés du départ. Et donc on obtient à la fin une poudre blanche que cette start-up prévoit de fournir en 5 de 25 kilos aux industriels. Et après ça va être aux industriels qui vont transformer cela en camembert, en crottin, en fromage à tartiner, en crème glacée. Et essayer de reconstituer la fermeté, le filant, le fondant du produit final. Les produits se rapprochent plus de leurs équivalents d'origine animale que les substituts vegan fabriqués à partir d'huile de coco ou de noix de cajou, par exemple. C'est ce qu'explique Romain Chaillot, fondateur de Stand Innovation. À la fin, dit-il, la protéine est la même que celle qui sort du pis de la vache. Alors, c'est pas une solution miracle, hein, de toute façon, pour les allergiques aux protéines de lait, mais potentiellement une bonne nouvelle pour les intolérants au lactose. Stand Innovation peut aussi partir de l'ADN d'une chèvre, d'une brebis, d'une bufflone. Et même si l'envie venait d'une baleine, mon Dieu, on va pouvoir faire du fromage à partir du lait de baleine, ça devient effrayant tout ça. La fermentation, par contre, ça c'est une méthode éprouvée depuis des siècles dans l'alimentation, mais s'y sont récemment ajoutées des techniques qui permettent d'entraîner des micro-organismes à produire des protéines spécifiques. C'est ça qui est intéressant. Et les principales utilisations, ça va être la reproduction de protéines de lait, protéines d'œufs, des substances particulières comme le M, par exemple, qu'on utilise pour fabriquer des burgers végétaux afin de se rapprocher le plus de la viande rouge. Et contrairement à la viande issue de la culture de cellules, la fermentation de précision n'utilise pas de cellules animales. Et le secteur a décollé depuis 2020. Ça attire presque $1 milliard d'investissement en 2021. Ça continue là encore. La start-up lyonnaise Bon Vivant, elle produit aussi des protéines de lait et elle a annoncé il y a quelques jours avoir levé 15 millions d'euros supplémentaires pour se développer. Aux États-Unis, en Allemagne, en Israël, il y a d'autres entreprises qui se lancent également sur ce créneau. C'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre. Mes enfants, on va pouvoir manger du fromage sans traire une vache. Les industriels encouragent ces innovations. Stand Innovation a noué l'année dernière des partenariats avec, par exemple, le fabricant du Kiri du Boursin, qui est l'entreprise Bell, et qui distribue déjà une gamme de fromages vegan à base végétale. Il y a Nestlé, il y a Unilever qui mène aussi des expérimentations. Les produits issus de la fermentation de précision produisent une fraction des émissions de l'élevage régulièrement épinglées pour le méthane et utilisent moins d'eau. Donc ça, c'est assez intéressant. De la même façon que les gouvernements ont aidé au développement des énergies renouvelables, ils devraient aider le secteur de la fermentation à passer à l'échelle supérieure pour promouvoir une alimentation plus durable, nous dit-on dans un communiqué. Très bien. Eh bien, écoutez, on va suivre ça. Stand Innovation espère commercialiser sa poudre à partir de l'année prochaine. Et aux États-Unis, le processus de autorisation dans l'Union européenne sera un petit peu plus long, 2025 voire 2026. Nous aurons nos premiers fromages qui n'auront pas été conçus directement à partir du pis de la vache. C'est 2024 qui arrive, mes enfants. C'est ça qui nous attend. Soyez sûrs que je serai encore là pour vous accompagner et pour vous alerter sur tout ce qui se passe. Vous informer. Après, chacun se fait son propre avis. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Reposez-vous. Essayez de passer du bon temps dans ce monde un peu fou qui nous entoure. C'était Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Je vous retrouve en janvier après cette période de fête Et 2024 s'annonce très, très prometteuse. Ça va être une année folle, là encore, au niveau de l'actualité scientifique et technologique. Je compte sur vous. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes. Merci de votre attention. Au revoir.